Sur les chemins du Nord-Isère, venez découvrir les villes et villages de notre territoire. Aujourd'hui, la commune de Nivelles-la-Vermelle. Nivelles-la-Vermelle est une commune de 2300 habitants située à proximité de Bourgoin. Nous y avons rencontré Michel Rival, maire depuis de nombreuses années, qui nous parlera de Nivelles et de son histoire, ainsi que Bernard Belloni et Brigitte Pradier, membres de l'opposition municipale. Grazella Bertola, adjointe à la culture, viendra également nous parler de la riche activité culturelle de cette commune. Le tissu associatif y est également très dense. Pour en avoir un aperçu, nous avons rencontré Dylan Raïs, animateur du club de football, Suzanne Badin, présidente de l'association de l'église de Vermelle, et Jean-Jacques Bernard, président de l'association qui veille sur la chapelle de Boussieu. Avec près de 900 emplois et environ une centaine d'entreprises, l'activité économique y est importante. Difficile de faire un choix, et nous avons privilégié le côté PME industriel et le monde agricole. Pour cela, nous avons rencontré Jérémy Goyet, jeune maraîcher agriculteur, et deux sociétés. Moxon Bois, représenté par Christophe Chavancy, qui est implanté dans l'ancienne scierie Rabatel, et MG Découpe Laser, représenté par Didier Garnier, qui est implanté dans la zone du Vernet. Bon, Michel Rival, vous êtes le maire de Nivelles-la-Vermelle depuis quand même de nombreuses années. Cette commune a la particularité, c'est qu'elle est fidèle à ses maires. Je crois qu'il y a eu trois maires dans tout le XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous parler un petit peu de votre commune?
Alors en effet, à Nivelles, les maires durent relativement longtemps. Louis Douillet a été maire de 1905 à 1959, avec deux interruptions donc pour les deux guerres. Gaby Pellet de 59 à 95, et puis moi j'ai fini le siècle. Mais par contre, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y en a eu que trois, parce que au début du siècle, vers la loi de 1905, la situation politique a été très troublée, et il y a des maires qui ont fait 6 mois à peine. Alors maintenant, sur l'histoire de Nivelles, alors les maires durent longtemps. La commune est relativement jeune, hein, puisqu'elle date de 1882 et elle a été constituée à partir d'un hameau de Cérezin, Nivelles, et d'un hameau des Épars, Vermelle, Ruffieux, puisque Vermelle, la commune des Épars, descendait jusqu'à Ruffieux. Alors vous vous rendez compte, elle était très étendue, puisque la première église, les Épars avaient deux églises, une église dont l'abside est actuellement dans le cimetière des Épars, et l'autre qui est l'église de Vermelle. La commune de Nivelles, donc constituée en 1882, la partie la plus ancienne de Nivelles, c'est Ruffieux, parce que Ruffieux est un grand carrefour des voies romaines, donc il y avait la voie qui partait sur la côte Saint-André, la voie qui partait qui venait de Vienne, celle qui partait sur Aoste et celle qui partait sur Grenoble. Donc il y avait le carrefour des trois rues à Ruffieux, Ruffieux qui englobait Boussieux. Boussieux n'existait pas d'ailleurs, hein, c'était simplement les champs. Et donc c'est la partie la plus ancienne. Nivelles n'existait pratiquement pas, puisque Nivelles n'a existé qu'à partir de 1740, quand le chemin, c'était l'ancienne voie romaine qui passait par Vermelles et qui passait par les Épars pour aller à la côte Saint-André, était très mal commode. Donc, décision de construction d'une route royale, la fameuse route nationale maintenant, enfin qui n'est plus nationale d'ailleurs, qui est départementale. Alors vous voyez tout le cheminement, elle a été royale, impériale, nationale, et maintenant elle est départementale. Mais malgré tout, c'est l'ossature de Nivelles, et on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a que la nationale dans Nivelles. Et malgré tout, elle est relativement récente, ce qui veut dire que Nivelles n'existait pratiquement pas. Et donc, le développement s'est fait à partir de la construction de la nationale, mais surtout après la révolte des Canuts. La révolte des Canuts, c'est 1831-1832. Et les donneurs d'ordre, les soyeux lyonnais, qui n'étaient pas contents que les Canuts demandent un meilleur salaire, sont venus chercher dans la campagne du Nord-Isère une main-d'œuvre moins chère, plus docile, etc., qui était moins remuante que les Canuts. Donc c'est l'origine du développement du métissage, de la soierie, sur Nivola, puis sur tout le Nord-Isère d'ailleurs. Hein. À tel point que le développement a été super rapide, parce qu'on va dire que c'est 1840 où il y a les premières implantations d'usines textiles. Et en 1860, donc 20 ans après, il y avait déjà 800 machines textiles sur la commune de Nivola. On le sait parce qu'il y a eu des recensements, etc. Dans plusieurs usines, Schwarzenbach par exemple, il y avait quand même un millier d'ouvrières et sur un nombre de machines textiles importants, les tissages d'hivernais, et il y avait des métiers à tisser presque dans toutes les maisons, où les gens avaient construit à la hâte un petit appentis pour mettre un métier à tisser, et du coup, ils étaient à la fois paysans et femmes faisaient des métiers à tisser. Donc l'origine de Nivola, l'origine, on va dire, du développement de la commune, c'est le tissage après la révolte des Canuts. Et c'est un développement qui a été tellement rapide que Cérezin a dû, à ce moment-là, construire une école de hameau, une église de hameau et une mairie annexe. Ce qui fait que Cérezin n'était pas très content. Il disait, qu'est-ce que c'est que ce hameau qui nous coûte plus cher que le centre de la commune. Donc, ils ont été demandeurs de séparer, disons, le hameau de Nivola de la commune de Cérezin. Et du coup, il y a eu tout un argumentaire pour dire, pour Ruffieux, qui dépendait du centre des épars, c'était beaucoup trop loin, etc. Donc, l'origine de Nivola s'est faite comme ça. Et la commune s'est constituée en 1882. Donc, il y avait déjà une mairie, un cimetière, une église, une mairie, qui était la mairie annexe, qui est devenue la mairie de la commune. Donc, tout ça a été construit, on va dire, par la commune de Cérezin et qui a été servi de support à la commune de Nivola-Vermel. Après, donc, il y a eu, bien sûr, la crise du textile dans les années 50, hein, 50-60, un nombre d'usines qui ont fermé et qui, sur Nivola, se sont beaucoup reconverties en métallurgie. Donc, c'est le cas de l'usine Paillet, qui est la plus grosse entreprise de Nivola, qui était au départ tissage, qui a fermé en tissage en 1936, où il y a eu les ouvriers s'étaient mis en grève, mais il y a eu un lock-out, donc l'usine a été fermée, et du coup elle s'est jamais réouverte en tissage, mais en moulinage, et après reconversion en industrie métallurgique. Il y a d'autres... un nouveau virage s'est fait dans les années 70-80, avec une implantation commerciale un peu plus forte, comme un peu de partout. Hein. Il y a eu une émergence de l'activité tertiaire, du commerce. Et donc là, sur Nivola, ça a été le cas aussi. Et la commune l'a encouragé, parce qu'on voyait petit à petit les commerces autour, dans les petites communes, se fermer les uns après les autres. Donc on a joué cette carte de développer un petit peu ce pôle commercial, non pas uniquement pour Nivola, mais pour toutes les communes du Val d'Agny, parce que les communes du Val d'Agny représentent quand même 7000 habitants, et du coup, ça justifiait un centre commercial de proximité, donc qui n'a rien à voir avec la Maladière ou avec l'île d'Abo, mais qui est un centre qui permet aux gens du secteur du Val d'Agny de trouver sur place à peu près ce dont ils ont besoin pour la vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal de demandes de gens qui ont vieilli dans les communes autour et qui souhaitent se rapprocher des services. Alors soit ils vont jusqu'à Bourgoin, puis il y en a qui n'aiment pas aller jusqu'à Bourgoin, parce que Bourgoin c'est quand même beaucoup plus dense, et qui s'arrêtent à Nivola en disant, ici on trouve le médecin, la pharmacie, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une commune où on a un taux de personnes âgées relativement important, parce qu'on a les nôtres, puis on a ceux qui viennent des communes environnantes pour passer leur vieillesse ici, parce qu'il y a des services de proximité.
Voici le point de vue de Bernard Bellani et de Brigitte Prédier, qui sont membres de l'opposition municipale.
Nous, notre objectif, quand on a monté cette liste d'opposition, c'était de proposer quelque chose de plus jeune, de nouveau.
Des objectifs sociaux, parce qu'on se retrouvait plus dans les, puisqu'on est, on était adjoints sortants tous les deux avec Bernard, donc on se retrouvait plus dans les orientations que prenait la liste que montait Michel Rival. Donc on a décidé de partir tous les deux, de monter notre propre liste. Après, avec des objectifs qui étaient avec de partenaires, de créer des partenariats, de créer des choses plus conviviales, plus avec des objectifs de partage, comme on avait l'objectif des jardins partagés qui ont été repris par l'actuelle majorité. On avait l'objectif aussi, plusieurs objectifs qui me reviennent peut-être pas actuellement, mais peut-être Bernard peut compléter.
Entre autres, l'objectif du stade multiloisir qui a été aussi réalisé par la municipalité actuelle. L'objectif, c'était de créer du partage, du lien social, ce qui est fait un petit peu ici en reprenant nos idées.
D'accord, donc finalement, vos idées ont été donc étudiées et reprises par la majorité actuelle, et vous avez participé quand même à l'élaboration donc de ces projets, vous avez été impliqué dedans ou pas ?
Pas au début, après parce que si vous savez le fonctionnement d'un conseil municipal, c'est par des commissions, et puis nous ne sommes que 3 représentants de notre liste, puisque nous n'avons eu que 30%, et c'est déjà beaucoup pour une première fois, 30% des votes, donc on ne pouvait pas aller au-delà de 3 représentants sur notre liste. Donc là, participer à toutes les commissions municipales, c'était pas possible, et puis on n'avait pas la volonté au début d'y participer. Là, on est plus impliqué, mais on n'a pas un pouvoir décisionnaire, notre voix ne compte pas. Enfin voilà, quand les décisions sont prises, on ne compte pas.
Oui, la décision, c'est toujours la décision majoritaire. Mais disons que quand même, si vos idées ont été reprises, c'est déjà une bonne chose.
Tout à fait. C'est qu'elles étaient bonnes.
Elles étaient très bonnes. Et quand on voit aujourd'hui donc les jardins partagés ou les jardins d'ouvriers, on peut appeler ça comme on veut, le fonctionnement, c'est quelque chose qui marche très très bien. Après, nous quand même, l'objectif, c'était d'avoir une équipe municipale quand même bien plus jeune que ce qu'elle est actuellement, et aussi de servir des gens du terrain, du monde associatif et du monde de l'entreprise, ce qui est toujours intéressant. Parce que quand on est, je dis bien entre guillemets, retraité, depuis un certain temps, on est un peu en décalage du monde de l'entreprise, du monde de la commune et même du monde social.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, c'est beau, la vie.
Vous êtes sur 97.1 à l'écoute de Couleur FM, sur les chemins du Nord-Isère, aujourd'hui Nivola-Vermel. Graziella Bertolin, adjointe au maire, va nous détailler toute l'activité culturelle de Nivola.
Alors en effet, au niveau de la commune, depuis le début de ce mandat, il y a eu la volonté donc de promouvoir et de mettre en lumière une action culturelle sur la commune. Donc il y a deux axes. Il y a déjà notre salle des fêtes qui date du Front Populaire, qui intéresse beaucoup les compagnies amateurs et les jeunes compagnies professionnelles. Donc nous avons mis en place donc pour la troisième année une programmation qui est présentée en début de saison. Cette année, nous avons 9 spectacles. Le premier spectacle sera un spectacle de chansons françaises le 5 novembre avec Mex et Donoré, et qui sera suivi le vendredi 11 novembre dans le cadre des commémorations par un spectacle qui s'appellera Chansons de Poilu, qui sera aussi donc en relation avec une exposition qui aura lieu à la bibliothèque de Nivola sur le soldat dans les tranchées. Notre programmation donc comporte des spectacles vivants, de théâtre et de musique pour cette année. L'autre lieu, donc l'autre espace culturel, c'est aussi la bibliothèque de Nivola-Vermel, qui, comme le disait Michel Rival pour les commerces, joue aussi un rôle attractif et de dynamique autour de la lecture sur le territoire du Val d'Agny. Alors donc cette bibliothèque, bien sûr, ce sont des livres à disposition, depuis cette année des CD et des vidéos également. Mais c'est aussi un lieu d'exposition et pendant toute l'année, de nombreuses expositions se succèdent. Donc là, actuellement, nous avons une exposition sur l'apiculture et l'apithérapie qui est intitulée « Nos amis les abeilles ». Cette exposition sera suivie d'une exposition donc sur « Le soldat dans les tranchées » au moment des cérémonies commémoratives du 11 novembre. Et ensuite, se succéderont des expositions de peintures et de photos d'artistes locaux de la région de Bourgoin. Nous avons la volonté aussi de travailler donc avec les associations culturelles qui sont invitées à participer à la commission culture. Nous menons aussi donc à travers notamment les expositions à la bibliothèque et aussi en accompagnant les classes, quand c'est nécessaire, aux expositions qui ont lieu à l'église de Vermel, une action avec les élèves de l'école. Nous essayons que nos jeunes puissent aussi aller à la rencontre de différents champs culturels proposés par les différents lieux de notre commune. Nous avons participé cette année activement aux journées du patrimoine en étant inscrit dans le parcours sur les communes du Val d'Agny. Et ce travail va être suivi d'une participation aux journées patrimoine du pôle métropolitain qui vont commencer là à Maubec, mais qui vont donc jusqu'au mois d'avril, puisque nous terminerons à Nivola ces journées du patrimoine du pôle métropolitain les 22 et 23 avril, et nous aurons donc une conférence théâtralisée par la compagnie Antisèche le samedi 22 avril à 17h, pour présenter l'histoire notamment de la place de Nivola-Vermel. Bon, comme il a été dit, j'ai aussi une autre casquette qui est donc la présidence de l'ALEP Art et Culture. Parce que l'ALEP, c'était une grande association il y a une petite vingtaine d'années, a demandé à ses différentes sections de se prendre en charge de manière autonome. Et donc il y avait l'Art et Culture qui était une de ces sections et qui aujourd'hui donc est devenue une association autonome, ALEP Art et Culture. Alors, en partenariat, l'ALEP Art et Culture, en partenariat avec la municipalité, organise chaque année une exposition de peinture. Donc cette année, nous aurons la 39e édition qui se déroulera le premier week-end de mars. Et depuis l'an dernier, nous avons innové en ayant un invité d'honneur. Donc l'an dernier, c'était Isabelle Groussol. Et pour la saison 2017, ce sera Dominique Vinvautier, une aquarelliste. L'alépariculture, ce sont aussi trois sections, peinture, théâtre et scrap. Et depuis septembre, moi je suis totalement satisfaite de voir que nos sections qui ont eu un petit moment de flottement là depuis 2 ans retrouvent un écho important puisque les effectifs, tant au niveau des ateliers de théâtre que des ateliers de peinture, les effectifs ont remonté et nous avons donc là le groupe enfant qui était tombé en sommeil l'année dernière, qui redémarre au niveau du théâtre. L'atelier dessin, qui est rattaché à la section peinture, qui a démarré l'année dernière, pareil, rencontre un bon écho. Le scrap, lui, fait son plein depuis plusieurs années. L'alépariculture aussi donc soutient la municipalité dans la programmation de spectacles vivants qui se déroulent à la salle des fêtes, en proposant aux adhérents et de l'alépariculture, mais aussi à tous les habitants de Nivolles-la-Vermelle, une formule d'abonnement, c'est-à-dire que pour 15 euros, on peut s'abonner à 3 spectacles de la programmation. Et bon, c'est la deuxième année que nous avons ces abonnements et on voit un accueil de plus en plus intéressé de la part des habitants de Nivolles. L'alépariculture, c'est pour finir aussi un voyage culturel chaque année qui fait le plat, puisque même l'année dernière, on n'a pas pu emmener toutes les personnes. On arrive donc à remplir un bus de 55 personnes pour aller à la rencontre d'une découverte culturelle. L'an dernier, c'était le pays avignonnais, donc le Palais des Papes, et la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. Et on peut dire que à chaque fois, les gens reviennent ravis et nous donnent rendez-vous à l'année prochaine. Donc pour 2017, je ne pourrai pas encore vous dire quelle sera la destination. Nous le déciderons à l'Assemblée Générale prochainement.
Dylan Raïs, animateur du club de football de Nivolles, nous présente celui-ci et en particulier les équipes féminines que l'on retrouve au plus haut niveau régional, voire national.
Alors le club de foot de Nivolles, c'est 400 licenciés, 25 équipes. Donc une particularité de ces 25 équipes, c'est qu'il y a toutes les équipes représentées au niveau garçon et niveau fille. C'est-à-dire que de 6 ans au senior, on peut pratiquer en garçon et en fille au club de Nivolles. Donc les entraînements, les matchs se déroulent au stade des Mûriers. Nos seniors garçons donc, qui évoluent à un niveau district ont les ambitions de remonter très rapidement au meilleur niveau du district dans les prochaines années. Le club de Nivolles, donc depuis maintenant 3 ans, s'est doté d'un nouveau projet, un projet qui a pour but de labelliser l'ensemble du club, donc une labellisation qui est une reconnaissance par la fédération qui se déroule donc en 4 axes, un axe sportif, un axe d'encadrement et de formation, un axe éducatif et un dernier axe au niveau des compétitions. Donc le club a entrepris cette démarche il y a 3 ans. Sous ces 4 axes, un gros axe de développement a été mis dans le côté éducatif avec plusieurs projets qui ont été découlés autour de cet axe. Pour le foot féminin, une école de foot féminine qui est labellisée maintenant depuis 3 ans, donc reconnue par la Fédération et la Ligue Rhône-Alpes de football. Cette démarche a été validée par l'ensemble de la fédération qui est reconnue maintenant. Alors depuis la saison dernière, on est descendu de championnat de France au point d'une réforme de la fédération française qui a passé les descentes du championnat de France de 2 à 6 descentes. Donc on était malheureusement parmi ces 6 équipes qui ont été entre guillemets punies. Donc cette année, on évolue en DH. Donc DH, c'est le meilleur niveau régional. Pour pouvoir évoluer au niveau championnat de France, il faut finir donc première de cette poule de DH, puis faire une interrégion qui se déroulera en 2 matchs aller-retour contre des équipes de toute la France. Le foot féminin à Nivolles, c'est 100 licenciés féminines. Donc comme je l'ai dit dans la première partie, de 6 ans à senior. Les U17 féminines donc, évoluent au championnat de Ligue. Les 19 féminines évoluent en championnat de France. Et on a 2 équipes au niveau senior, donc une qui évolue en HR, c'est le 2e niveau régional, et l'équipe Fagnon au niveau DH, le meilleur niveau régional.
avec un espoir de remonter pour l'équipe Fagnon.
Dès la fin de saison, donc c'est l'objectif pour cette équipe de Fagnon, de remonter très rapidement. Donc dans le meilleur côté, ce serait de remonter dès la fin de saison 2016-2017.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière. À travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
Jean-Jacques Bénard, président de l'association qui fait vivre la chapelle de Boussieu, nous parle des particularités et de l'histoire de cette chapelle.
Oui, donc pour remonter brièvement à l'origine, il faut quand même remonter à l'époque des usines pensionnats. Et il y avait là un prêtre qui était arrivé, le père Rieffel, qui lui était déjà spécialisé dans le travail avec les filles, les jeunes filles sourdes et muettes. Donc il a pris en main le travail de cette équipe. Il a été fait dans la foulée un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Saint-Antoine. Donc, à la suite de cela, le père Rieffel, qui s'en occupait, s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de religieuses qui étaient en âge de retraite et qui ne pouvaient plus résider dans ce lieu. Il a donc décidé de faire construire un autre petit bâtiment à côté. Donc, cette maison Saint-François, il récupérait les religieuses d'âge en retraite pour les mettre au repos, et il y avait fait également à l'intérieur une salle de patronage qui servait à récupérer quelques jeunes. Et dans les années, dans 1920, quelque chose juste après la guerre, il a été décidé de construire une chapelle, qui est la chapelle actuelle. Donc là, ça a duré comme ça encore pendant quelques temps. Entre-temps, je suis passé sur un épisode important, c'est-à-dire que le père Rieffel est décédé et ses sœurs Perpétue qui a pris la relève. Donc la chapelle a été faite à l'emplacement où elle est actuellement et elle a été agrandie, revue, parce que pratiquement doublée de surface en 1930-32. Et c'est là que l'on a fait appel à l'architecte de Bourgoin, Monsieur Ribollet. Donc lui a entrepris la restauration, l'agrandissement de cette chapelle. Il l'a élargie, il l'a allongée en mettant un parvis et un clocher qui n'existait pas. Et là, il a eu l'idée de faire appel à un de ses amis qui était Monsieur Tony Garnier. Et M. Tony Garnier, lui, connaissait très bien René Lalique.
Et après, M. Ribollet s'est donc mis en contact directement avec la maison de la Ligue. Donc en 1933-34, je crois, les vitraux ont été commandés et il manquait également quelque chose qui fasse le concept vrai d'une chapelle, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque la table de communion. Et elle a été commandée également toujours à la maison Lally, qui a été installée, je crois, en 1934. Nous avons la particularité d'avoir tous les vitraux qui sont de fabrication Lalique et cette table de communion qui ont un certain cachet. Là, je pense que ça n'a pas été fait dans un but de richesse esthétique, mais le résultat est là. Maintenant, on est avec un phénomène un peu exceptionnel, parce que la maison Lalique, avec laquelle on a eu quelques entretiens, quelques contacts, ne se souvenait même pas qu'il existait une autre chapelle en France avec des vitraux et une table de communion Lalique. Pour eux, la seule qui existait, c'était Notre-Dame de la Délivrande dans le Calvados. On l'a coupé, cette table de communion, on l'a écartée de façon à faire un passage au milieu, et ma foi, pendant cette période-là, on s'est fait voler à peu près 3 ou 4 pavés. Donc on est en contact à l'heure actuelle, parce qu'il y a aussi un aspect financier. Pour ne rien vous cacher, je crois que le pavé qui fait 20 sur 27, 20, mettons 30, coûte à peu près 5 à 6 000 euros. Et il en faut 4 pour faire le portillon. Je pense avoir trouvé une idée en faisant appel à des partenariats de grosses sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Alors, un détail quand même qui a son importance, pourquoi notre association et moi-même, on s'occupe de ces travaux, c'est parce que par la suite des travaux qui ont été faits par le père Rieffel, c'est resté la propriété de l'association. L'usine Schwarzenbach n'avait rien à voir. Et puis, de fil en aiguille, de disparition de personnes en disparition de personnes, je suis arrivé à me retrouver à la tête de cette association. Et je peux dire en toute sérénité que j'en suis le propriétaire. Ce qui n'est pas forcément un cadeau, avec tous les travaux que ça peut engendrer. C'est pour ça que notre association, qui continue à se développer, on est une toute petite association, mais quand il y a besoin, je dis toujours en plaisantant qu'il suffit de donner un coup de sifflet et on se retrouve à 30 ou 40 pour travailler. Ça va être le cas dans un petit mois, 3 semaines, avec notre traditionnelle opération boudin à la chaudière, où là nous avons bien entendu une messe où on arrive à remplir la chapelle, voire même à laisser les portes ouvertes quand il fait beau. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fait venir les gens, mais ça n'est pas uniquement le but. Le but est aussi d'entretenir un climat de convivialité, de camaraderie, de sympathie. Et ceux qui y viennent le constatent tous les ans. À chaque fois que les gens se rencontrent, ils disent « Oh tiens, c'est sympa, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu, etc. » Et je crois qu'on a eu toujours du mal à chiffrer la quantité de personnes qui viennent, mais ça doit tourner aux alentours de 5 à 600 personnes. Donc ça, effectivement, génère des finances. Et ces finances-là nous permettent d'entretenir la chapelle, d'entretenir le bâtiment de Saint-François qui est là, et de faire un petit peu que tout cela fonctionne à peu près correctement. Elle est ouverte, bien entendu, le jour de notre opération boudin. Elle est ouverte le jour du patrimoine. Et en dehors de cela, il suffit de s'adresser à l'office de tourisme ou au musée.
Quand je l'ai vue, je l'ai sifflée. Sur son tracteur, elle n'a rien entendu. Elle aurait pourtant pu me voir. À 20 à l'heure, c'est pas la mer à boire. Pourtant, j'ai su ce matin-là, moi qui jusqu'alors ne croyais pas à l'amour sorcier, l'amour pétard, que Cupidon me prendrait sur le tard. L'amour sorcier, l'amour pétard, que Cupidon me prendrait sur le tard. Elle avait un derrière immense, tout agité en rythme et en cadence, posée sur la selle du tracteur. Elle était toute enroulée en rondeur. Ses mains posées sur le volant dégageaient d'elle démesurément tout l'érotisme et la vigueur, bien plus que les 110 chevaux du tracteur. Tout l'érotisme et la vigueur, bien plus que les 110 chevaux du tracteur. Je suis resté sur le trottoir, tout envoûté, le cœur au désespoir. J'avais vu ses bottes en caoutchouc, moulées de près, s'immoler jusqu'aux genoux. Disparu les chars de betterave, me restait d'elle un sentiment suave. Son érotisme, rien cruel, son charme et l'odeur du moteur diesel. Son érotisme, rien cruel, son charme et l'odeur du moteur diesel. Elle m'appartient, je suis à elle. Elle est ma vie, ma biche et ma gazelle. Quand je lui parlerai, c'est sûr, nous irons tous les deux à l'aventure. Si seulement j'avais eu l'idée de poser par terre ma pelle à fumier, j'aurais dépassé son tracteur facilement avec mon vélo moteur. J'aurais dépassé son tracteur facilement avec mon vélo moteur. Quand elle revint la fois suivante, je l'attendais tout en haut d'une descente pour mieux pouvoir la dépasser. Malheureusement, mes freins ont lâché. Je l'appelais du bord de la route. Elle a passé sans l'entendre sans doute dans son tracteur climatisé, tout dernier cri insonorisé, car elle avait changé de tracteur. Ainsi, j'ai pas pu lui donner mon cœur.
Vous êtes sur 97.1 Couleur FM et vous venez d'entendre La fille du tracteur, interprétée par Sarclot, Belle Hubert et Simon Gerbert, extrait de leur album La quinzaine du blanc chez les Trois Suisses. Toute la richesse patrimoniale de l'église de Vermelles est évoquée par Suzanne Badin, présidente de son association de sauvegarde.
Alors, l'église de Vermelles, je vais vous présenter un petit peu l'église de Vermelles. La cloche qui est classée. La cloche refondue par un artisan lorrain porte la date de 1556-55, est classée au monument historique depuis 1963. Elle est ornée d'une frise formée de fleurs de lys entrelacées. La cloche qui n'a pas voulu connaître l'électricité est encore tenue par une corde que l'on sonne pour la fête de l'Assomption le 15 août et des manifestations exceptionnelles. Les vitraux. Alors, les vitraux sont particuliers dans cette église. Tous les vitraux ont été refaits et portent chacun le nom d'un donateur différent. Ensuite, nous avons encore deux bannières. Alors, les bannières n'existent presque plus dans les églises, mais nous avons deux bannières. Deux grandes bannières, l'une représentant Sainte Philomène et l'autre représente Saint Blaise de 1830, qui est d'origine. Les couleurs sont très belles. Il y a aussi deux petites bannières qui sont au fond de l'église, qui sont beaucoup moins importantes. Ensuite, il y a les deux bénitiers. Les deux bénitiers sont en pierre. L'un date du Xe siècle, qui est très sobre de lignes, et l'autre de Louis XIV, qui provient de l'ancienne église de Bourgoin. Les chapelles latérales, donc aux voûtes romaines, ont été rajoutées à une époque indéterminée, fin 17e ou 18e. Donc la chapelle latérale, qui est au midi, comporte une architecture plus ouvragée. Elle est chapelle seigneuriale, à en juger par l'écu de la clé de voûte. Ensuite, nous avons trois hôtels très différents. Donc, il y a un hôtel en bois style baroque qui a été restauré dans la chapelle latérale à droite. la chapelle, l'autre hôtel en bois qui a été restauré avec le grand tableau de Saint-Joseph au-dessus, et l'hôtel central qui est en marbre rose, qui a été restauré aussi. Et la marche devant l'hôtel a été refaite également. La grande nef actuelle a été agrandie en 1821. Donc nous avons dans la sacristie aussi un beau mobilier, c'est la crédence, qui est entièrement en noyer avec le cœur du noyer sur chaque porte d'origine. Donc nous avons de grands tiroirs dans le dessous du meuble où nous rangeons tous les vêtements religieux. Alors dans la sacristie, il y a une porte cintrée qui est également tout en noyer avec le cœur du noyer sur la porte. Nous avons aussi le cimetière autour de l'église, qui a eu aussi l'inventaire du cimetière par le département. Nous avons également un jardin qui vient d'être édifié depuis 2012, un jardin tout autour de l'église qui est magnifique au printemps. Et puis, alors, l'Association pour la protection de l'église de Vermel organise les saisons culturelles chaque année. Nous faisons beaucoup de manifestations. Alors, pour 2017, je vous annonce le programme, l'exposition de peinture de Gilles Laverne qui va fêter les 50 ans de peinture à l'église de Vermel, parce qu'il a été un des premiers peintres à venir à Vermel. Ensuite, nous avons Gilbert Bouchard qui vient faire une exposition de BD et une conférence sur les diguières, également au mois de juin. Ensuite, comme chaque année, nous avons la messe du 15 août, la messe de l'Assomption à 10h30 avec la particularité de la procession où quatre hommes portent la Vierge. Ensuite, il y a les journées européennes du patrimoine, donc l'association participe chaque année. Cette année, nous faisons venir Michel Le Royer qui récitera les poèmes « Je vous salue Marie ». Accompagnée par la pianiste Brigitte Gonin-Chanu. Ensuite, pour clôturer les saisons de Vermel, il y a l'exposition de peinture par Kanji Kamiya, qui est un peintre international, qui va venir exposer au mois d'octobre. Voilà pour le projet des saisons culturelles de Vermel 2017.
Olhem, olhem para ela, traz o mundo num balão. Ai, Lisboa é sempre aquela, ai, Lisboa é sempre aquela que mantém a tradição. Traz São Pedro na canoa, com a esperança que é varina. Vem lembrar as mãos de Goa, vem lembrar as mãos de Goa, dos seus tempos de menina. Ai, é Lisboa, tenho um beijo para te dar. Vem para a roda e traz um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, ai, Lisboa, que cheirinho a manjerico, deve andar no bailarico Santo António a ver as moças. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta, que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. Traz nos arcos e balões ramalhetes de cantigas. São os versos de Camões, são os versos de Camões para ensinar às raparigas. Não precisa de queimar alcachofras por ninguém. Não lhe falta a quem amar, não lhe falta a quem amar. Todo mundo lhe quer bem. Ai, ai, Lisboa, tenho um beijo para te dar. Vem para a roda e traz um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, ai, Lisboa, que cheirinho a manjerico, deve andar no bailarico Santo António a ver as moças. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta, que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. Thank you. de brincadeira, salta a chama da fogueira que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta, que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz.
Vous êtes sur 97.1, Couleur FM, et vous venez d'entendre un fado interprété par Patricia Costa. C'est sur le marché de Saint-Savin que nous avons rencontré Jérémy Goyet, jeune maraîcher de Nivola.
Oui, donc bonjour. Donc pour commencer, niveau partie maraîchage, on fait tout ce qui est légumes de saison. On produit environ sur 2 hectares sur la commune de Nivola en légumes. Je dispose d'à peu près 1000 m² de serre couverte et on produit toute l'année. Ensuite, on écoule notre production sur 3 marchés. Le mercredi matin à Saint-Savin, le samedi matin à Nivola, vendredi soir dans une ferme à Frontenat, et on fait également de la vente à la ferme à Nivola. On fournit notamment la cantine scolaire de Nivola Vermel qui travaille avec nos produits frais pour ce qui est de la partie maraîchage. Pour la partie, l'autre partie d'exploitation, je suis associé avec mon père en EARL depuis 3 ans. On produit principalement des céréales et de la viande. On a à peu près 60 mères pour une surface agricole d'une centaine d'hectares. Et la distribution des produits se fait par le biais des négociants, autant pour les céréales que pour la viande, même si une partie de vente directe de viande est en prévision.
Pour situer quand même la ferme dans Nivola, ceux qui connaissent l'église de Vermel, la ferme se trouve à proximité de l'église de Vermel.
Non, la partie maraîchage, on va dire que maintenant la phase de rodage est terminée. On a atteint la vitesse de croisière et on va rester de la sorte.
D'accord. Et la partie élevage, donc vous avez parlé d'une vente viande directe, là, c'est pour quand à peu près?
Pour le moment, on est en train de voir avec quel partenaire on va travailler. A priori, ça serait pour le mois de décembre ou le mois de janvier, quoi, fin d'année ou début de l'année qui vient.
Agriculteur quand même content de l'être, même si c'est difficile par moment?
Bah, on aime notre métier, on compte pas les horaires et on travaille 7 jours sur 7, même si maintenant on est dans une période difficile et on aimerait bien arriver à dégager un revenu, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Est-ce que la vente directe permet quand même d'avoir des marges un peu meilleures que les marges négatives qui sont quelquefois en vendant à l'extérieur?
Ben, disons que le biais de la vente directe nous permet de faire nous-mêmes notre prix et de calculer au plus juste pour le consommateur, mais qu'également ça nous laisse quelque chose.
La société Moxon Bois, PME de 10 salariés, nous est présentée par Christophe Chavancy, responsable du site.
Nous avons repris le site de Jacquet Rabatel, bien connu dans la région, fin 2005. Donc ça fait maintenant 11 ans qu'on opère sur ce site, et qui était un site déjà dédié au bois. Donc c'était très facile pour nous d'avoir un repère géographique local qui était connu de tout le monde. Et effectivement, cette continuité dans une activité bois sur le site a plu à beaucoup de gens localement. Donc effectivement, Moxon Bois a une consonance un petit peu anglo-saxonne. Les propriétaires sont des Australiens. C'est une entreprise familiale qui travaille dans le bois depuis plus d'un siècle maintenant, puisque la famille Moxon travaille dans le bois depuis 1903 en Australie et a souhaité créer sa filiale européenne en France pour assurer leur approvisionnement en tout bois européen et principalement en bois dur pour pouvoir les stocker sur leur parc en France. Donc à Nivola, nous avons la chance d'avoir un site dédié au bois, comme je l'ai dit précédemment, avec l'antériorité de Jacquet Rabatel. On fait nos achats dans la France entière, principalement dans l'Est, où on centralise, je vais utiliser un petit mot anglo-saxon, concentration yard, où effectivement tous nos achats sont centralisés à Nivola par rapport à des bienfaits climatiques, par rapport à la pluie, à la neige, enfin différents aspects, puisqu'on a une activité initiale qui est l'activité de bois pour l'œnologie, et qui après s'est décliné dans d'autres activités qui sont beaucoup plus connues localement que notre activité bois pour le vin. Donc effectivement, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes. On réalise un chiffre d'affaires qui oscille aux alentours des 5 millions d'euros. On a une empreinte locale très forte, puisque l'ensemble de nos salariés sont des gens du secteur. On a une équipe très polyvalente et très jeune, avec une moyenne d'âge qui est aux alentours d'une trentaine d'années et avec une ancienneté dans l'entreprise qui est très très forte. On est connu localement aussi parce qu'on a développé depuis quelques années une activité locale de vente aux particuliers et aux professionnels sur des bois dédiés aux aménagements extérieurs. On a tout ce qui est deck pour les terrasses, tout ce qui est bardage, produits de recouvrement. Et depuis quelques années, c'est un petit peu moins connu, mais ça commence à prendre date, où on a une gamme de décoration d'intérieur avec toute une gamme de parquets et une gamme de produits pour tout ce qui est l'intérieur des maisons. Et donc aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire sur Moxon Bois à Nivola.
MG Découpe Laser est le symbole de la présence d'entreprises de technologie nouvelle sur la commune. Didier Garnier, co-gérant de cette société, nous présente son activité.
Bonjour, donc Didier Garnier, je suis le co-gérant de la société MG Découpe Laser, donc une société qui a été créée en 2007, juillet 2007. Alors la création a été une opportunité qu'un ami d'enfance a eu, François Marmonnier, qui détient la chaudronnerie Marmonnier, une chaudronnerie qui existe depuis trois générations. Donc lui, François, a repris la société il y a 15 ans. Et l'évolution du métier a fait que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il avait des besoins en découpe laser. Et donc, à travers ces besoins, il s'est posé la question, pourquoi ne pas créer une société de proximité pour faire ces applications. Donc il a pensé à moi, puisqu'on est déjà amis d'enfance, il y a une certaine confiance entre nous, et puis donc il savait que je voulais créer quelque chose, me mettre à mon compte. On a monté le projet ensemble, ça a duré une petite année, et puis on est parti donc le 1er juillet 2007. On avait un salarié, donc lui s'occupe de la chaudronnerie, moi je suis à part entière MG Découpe Laser. Et donc depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans maintenant, la société prospère dans le bon sens, en espérant que cela dure. Donc MG Découpe Laser, c'est de la découpe laser et c'est un travail sur les métaux. Donc on découpe des métaux qui sont l'aluminium, l'acier et l'inox. Donc à travers des plans que les clients nous fournissent. Donc ça peut être aussi bien de la pièce pour les gens qui font de la chaudronnerie, de la métallerie, de la serrurerie, que de l'habillage alimentaire, de la cuisine, de la crédence de cuisine, également de l'enseigne. Donc on touche vraiment à tous les domaines. Donc aussi bien les remontées mécaniques, le milieu de la montagne, aussi bien l'automobile, donc l'alimentaire comme je vous le disais, également le bâtiment puisqu'on travaille avec les gens qui font beaucoup de garde-corps, donc des garde-corps aluminium, des garde-corps acier, des escaliers également, du design qui est très porté sur l'industrie. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'escaliers en métal, donc là il y a eu un gros développement sur ces produits. Puis également après tout ce qui est technologie nouvelle, on travaille également beaucoup dans l'aéronautique. Alors ça, c'est indirectement à travers nos clients. François, bien sûr, Marmonnier, qui travaille, qui a une clientèle sur ce type-là. Donc indirectement, on fournit des pièces pour tout ce qui est aéronautique, traitement. Et puis, donc dans l'automobile, justement, j'avais eu un client hier qui était sur Valenciennes, chez Peugeot, qui avait besoin de pièces en urgence pour une ligne de production qu'on va lui faire dans la journée pour lui expédier très rapidement. C'est un métier où, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de réactivité. On travaille surtout sur le service. Aujourd'hui, on a un carnet de commandes à la petite semaine, on a 3-4 jours. Donc on a besoin d'être une équipe soudée, des gens compétents qui soient présents pour la société, qui sont complètement autonomes. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe qui va dans ce sens-là, qui est présente quand il faut faire des heures. Ça, c'est très important pour le bon fonctionnement de la société, puisqu'aujourd'hui, on a plus de délais. C'est l'industrie qui veut ça aujourd'hui. Donc il faut être très réactif et arriver très rapidement à fournir les clients. Alors aujourd'hui, on est 15 personnes. Donc on a 3 personnes en dessin, donc tout ce qui est préparation de plan, une secrétaire, une personne qui s'occupe de tout ce qui est imbrication, donc c'est la programmation des machines, qui va optimiser les tôles dans la façon de découper pour qu'on ait un gain de matière. Et puis après, donc j'ai un commercial itinérant, et puis on est 6 à l'atelier, et puis une personne qui s'occupe de la logistique transport.
Pour nos notre prochaine émission, nous irons à la découverte de Saint-Marcel-Bel-Accueil.